À voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme me rencontre Carla Bruni. Ce soir, les bienfaits de la nostalgie.
Bonjour Carla Bruni.
Bonjour.
Pour cette cinquième et dernière partie d'À voix nue ensemble, on va parler du temps. Dans J'arrive à toi, vous écrivez « Je n'arrive à rien qui console, je n'arrive à rien qui prétend, je n'arrive à rien qui s'envole, à rien qui défie le temps ». Est-ce l'auteur ou la femme qui parle ? Est-ce que ça ne serait pas les deux ?
Ah oui, c'est absolument les deux. C'est très difficile de faire la part des choses, mais le temps est un peu plus radical pour nous les femmes, je dirais pas en termes d'apparence, mais en termes de sensations, disons. On est très marqué par le temps, parce que les hommes ont une espèce de fil, on dirait, qui tisse de la naissance à la mort, tandis que nous, on a comme des périodes, quoi, et elles sont marquées. Mais sinon, je trouve que le temps est tellement féroce que globalement, il fait vraiment la même quantité d'opprobre à tout le monde. En tout cas, j'ai une amie qui est ivoirienne et sa mère, qui est une jeune femme assez jeune, sa mère qui est pas tellement plus âgée que moi, hein, ne sait pas précisément quand elle est née. Et donc, elle a un état civil où elle a dû choisir. Mais elle sait qu'elle est née, si vous voulez, elle était dans un village. Donc, ils n'ont pas déposé l'état civil. Ils n'ont pas inscrite dans les livres, quoi. Et donc, elle sait, à 5 ans près, quand elle est née, évidemment, elle sait qu'elle a plus que 55 ans. Elle sait qu'elle n'a pas 30 ans. Mais elle sait qu'elle n'a pas 70 ans. Mais disons que c'est quand même une espèce de zone grise. Elle a dû choisir pour avoir ses papiers une date. Donc elle a rappelé ses aînés qui restaient au village, il lui restait une tante, etc. Et la tante lui a dit globalement qu'elle était née quand la rivière était sèche et que c'est arrivé 3 fois. Et alors, cette espèce de grand flou dans lequel elle est avec sa date de naissance en a fait quelqu'un de très amène, de très très doux. Et ça me plairait beaucoup de pas précisément savoir le jour et l'heure, tant pis pour l'horoscope. Et je trouve ça un peu avilissant. On a très peu de certitudes. On sait qu'il y a 2 dates entre lesquelles on va vivre, hein, celle de la naissance et de la mort. Pourquoi être si précis? Pourquoi en faire toute une affaire avec l'anniversaire, etc. Est-ce que ça nous crucifie pas, cette affaire de date et de temps? Et est-ce qu'on n'a pas choisi la mauvaise route? Est-ce qu'on n'a pas cru qu'on allait le contrôler, qu'on allait l'amadouer? On voit bien que c'est lui le patron.
Concrètement, vous avez quel rapport au temps? Est-ce que vous arrivez tout le temps en retard? Est-ce que vous adorez que votre agenda soit plein de rendez-vous? Est-ce qu'à l'inverse, vous aimez avoir des journées totalement vides? Concrètement, votre rapport au temps, il est lequel?
Il est sans doute un peu pathologique parce que le temps de l'activité, pour moi, n'est pas le même temps que le temps de la vie, du plaisir et de la création. C'est-à-dire l'action interfère pour moi. Parce que l'action implique souvent un contact avec autrui. Je ne sais pas, par exemple, si je passe du temps à ouvrir mon courrier, c'est un temps qui m'a toujours semblé perdu. Je sais qu'il ne faut pas dire ça, parce qu'il faut ouvrir son courrier. Hein. Mais j'ai du mal à aménager mon temps et j'ai besoin d'un temps de solitude assez grand, assez vaste. Et alors, je ne suis pas sûre d'aménager bien mon temps. Après, j'ose pas être en retard. Hein, j'ose pas du tout, par politesse. Mais je pourrais être en retard, parce qu'il y a un moment où je ne sais pas vous, je ne sais pas comment font les autres, mais moi, j'ai une angoisse qui monte au moment d'arriver près d'un horaire et de justement la possibilité d'être en retard. Et alors, il y a un truc que je déteste encore plus qu'en retard, c'est en avance. Ça me fiche un coup. Non, mais pas vous, mais quand les gens, tout d'un coup, on a un rendez-vous, si les gens, ça fait culpabiliser immédiatement les gens comme moi qui ont petite possibilité d'être en retard. Après, je suis la sœur de quelqu'un, c'est-à-dire ma grande sœur. Elle est mise en retard, mais comme, je sais pas comment elle ose faire ça. Elle dit qu'elle fait pas exprès. Mais quand même, quand c'est systématique comme ça, c'est qu'elle veut qu'on l'attende.
Là, on parle quelque de part. Valéria Bruni-Tedeschi.
Voilà. Je sais pas comment elle fait pour être aussi en retard. En tout cas, quand elle a reçu son César, elle n'est pas arrivée en retard. Ça va.
Vous diriez que vous êtes plutôt une nostalgique, c'est-à-dire avec parfois un état de tristesse associé au passé, ou plutôt une mélancolique, c'est-à-dire parfois avec un état de tristesse indéfini, ou ni l'un ni l'autre.
Je suis un peu des deux, oh oui, même un peu beaucoup. Je suis tout à fait nostalgique. Tout ce qui est passé sans douleur pour moi. Et enfin, tous les moments douloureux s'estompent complètement et je ne vois plus que les couleurs vives de l'expérience, du souvenir. Je trouve que c'est très avantageux d'être nostalgique. Je comprends pas que les gens ne soient pas nostalgiques. C'est beaucoup plus facile qu'être quelqu'un qui aime les projets. Parce que les projets, c'est, on n'est jamais sûr d'être en constructif, un peu futuriste, par exemple, comme mon mec. On n'est jamais sûr, tandis qu'on est sûr de ce qu'on a vécu. Et oui, la mémoire n'est pas si précise, et tant mieux. Et j'adore le fait qu'elle transforme le passé dans une longue vie de cocagne, d'expérience, et que les choses les plus dures ou les plus déchirantes sont devenues comme, au fond, des sources presque de fierté, le fait d'avoir pu dépasser la mort de quelqu'un ou un désastre ou un échec absolu et que ça soit complètement transformé, ça me plaît beaucoup. Et ça, c'est, il y a que le temps qui fait ça et c'est que la nostalgie qui fait ça.
Vous avez été en analyse. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'on vit mieux?
Ah bien, ça m'a apporté... La chose principale, j'ai l'impression que ça m'a apporté, c'est que je ne m'en prends plus qu'à moi-même. Tandis qu'avant, je m'en prenais aux autres. Je les tenais responsables pour certaines choses. Et je les tenais parfois responsables de tristesse ou d'humiliation. Maintenant, je ne m'en prends plus qu'à moi-même.
C'est
et
plus
donc,
facile
c'est beaucoup
à vivre.
Plus facile à vivre. Parce que on peut faire quelque chose avec soi-même, on peut pas grand-chose faire avec l'autre. Surtout si on est braqué contre lui. Et par ailleurs, ça m'a même aidé à harmoniser quelque chose avec moi-même. Donc du coup, j'ai harmonisé quelque chose avec les autres. Donc maintenant, par exemple, ça m'a permis de... Alors c'est pas un joli mot, mais ça me permet de manipuler un peu les autres, par exemple. Parce que ça me permet de les manipuler dans le sens... Disons que j'aurais dit à quelqu'un avant « Pourquoi tu as fait ça, c'est insupportable ?» Ou « Pourquoi tu dis ça, c'est insupportable ?» Pourquoi tu es comme ça? Ça m'est insupportable. Tandis que maintenant, je dis, et c'est un peu de la manip, oh là là, je suis comme ça, je comprends que tu trouves ça insupportable, mais j'arrive pas tellement à changer, ça désarme complètement les gens, c'est en ce sens-là que c'est un peu de la manip. Et curieusement, ce que l'on n'obtient jamais par l'angoisse, par le fait de faire porter aux autres ce qu'on ressent, et ça, on l'obtient immédiatement dès qu'on prend son baluchon. Parce qu'en fait, dès qu'on prend sa valise, en quelque sorte, et qu'on dit « Non, mais ça, tu as raison, c'est parfaitement raison. Je te demande pardon, ça, c'est ma valise. Ça correspond pas à ta valise, ça, c'est la mienne. Je me suis trompée parce qu'on a des tics. » Et là, immédiatement, la personne, en quelque sorte, prend sa propre valise aussi. Et donc, il n'est pas rare qu'un conflit puisse se résoudre complètement avec cette affaire d'inconscient où on accepte qui on est, on accepte même le pire de ce qu'on serait, et à partir du moment où on l'accepte, le pire s'amenuise, je trouve, et devient comme une espèce de truc anodin, en fait, qui était diabolique tant qu'on le gardait caché quelque part et qui maintenant est rien, c'est une poussière. Donc, si on veut, on peut l'aspirer avec un balai. Le plus belle métaphore sur la psychanalyse que je peux imaginer, il y en a plein, mais il y en a une que j'aime, c'est, imaginons que le sac en plastique ne soit pas si toxique et que ça soit juste un sac en plastique au fond d'un étang qui serait notre vie et notre conscience. Tant qu'il est au fond, on pense que c'est le Loch Ness, que c'est un monstre. Mais si on prend une espèce de longue perche de drague et qu'on le remonte, on voit que c'est juste un sac plastique. Et que, voilà, dès qu'il est à la surface, c'est un sac plastique. On peut le laisser flotter dans l'eau, on peut le récupérer, le recycler, le mettre à la poubelle, on peut le repousser au fond, mais en tout cas, on sait que ce n'est qu'un sac plastique. Il perd donc tout son potentiel de mystère, il perd son potentiel de destruction, et il perd son potentiel d'inconnu. Et ça serait comme un révélateur quand on avait les vraies photographies en argentique. Vous savez, on mettait un bout de papier dans un certain liquide, et là, sortait le négatif.
Ce qui me marque, c'est que ça va à l'encontre de l'idée qui dit que l'analyse creuse le narcissisme. Vous, on a l'impression que c'est l'inverse dans ce que vous dites.
Je crois que l'analyse, c'est à chacun son assiette, en quelque sorte. Je crois que l'analyse, c'est ce qu'on est que l'on devient. Et donc, ça peut creuser le narcissisme, peut-être pour des personnes qui restent dans un certain... qui sont narcissiques, tout simplement. Hein. Ce que je sais, c'est que ça dénoue quelque chose. Mais il faut avoir ce nœud-là. Et tout le monde n'est pas fait. Tout le monde n'a pas ce nœud-là. Il faut être insatisfait de quelque chose. Il faut... Enfin, Freud disait, on n'a pas besoin de psychanalyse si on sait aimer ou si on sait travailler. Et ben voilà.
Est-ce que vous avez toujours voulu progresser? C'est un des fils de votre vie?
Oui. Oui. C'est une allégeance que je fais à cette chose, cette sensation de chance que j'ai. Je me dis quand même, si en plus, je ne progresse pas du tout, si je n'ai pas d'évolution, j'aurais vraiment une belle vie et dans les mains d'une idiote, quoi. Vous voyez? Et il faut faire quand même un peu quelque chose. Pas arriver tout à fait là où on est parti. C'est ça que je n'aime pas des castes sociales, c'est qu'elles vous gardent dans cette chose-là. Il y a des gens qui sont très fortunés ou tout simplement privilégiés et qui se regorgent de cela. Mais je trouve ça dingue. Ils ne s'aperçoivent pas que c'est complètement par hasard, qu'ils auraient pu tomber dans un bouge, dans une maison de tôle. Et des gens qui sont satisfaits. Et il y a des gens qui perdent complètement contact à cause de leur caste sociale avec la réalité. Ils perdent complètement contact avec le fait que c'est un pur hasard s'ils mangent tous les jours, c'est un pur hasard si leur corps fonctionne et qui bat, et c'est un pur hasard s'ils peuvent aller voir une expo au cinéma. Les gens se rendent compte de rien. Ils n'ont aucune conscience, et notamment les gens qui sont dans le privilège. Et c'est en ce sens-là que je pensais être de gauche, vous voyez, c'est-à-dire en ce sens-là.
Vous êtes mère, est-ce que c'est un bonheur total ou est-ce que c'est un bonheur teinté d'angoisse?
Un bonheur teinté d'angoisse. Une joie totale et un bonheur teinté d'angoisse. Parce que quelle responsabilité. Puis on ne peut pas dire que ce soit nécessaire, pardon, hein. Mais vous avez vu combien on est? Quand on était petite, on était combien? On était 2 milliards, non? 3. Maintenant, on est combien? 8? Non, mais ça va mal tourner, je vous dis, ça va très mal tourner. Faut arrêter de se reproduire d'urgence. Non, mais je dis ça, je vais me faire avoiner, mais... Non, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Très, très dangereux. Non, non. En grande satisfaction personnelle, parce que maintenant, il y a une espèce de barrière... D'abord, je suis une espèce de barrière entre eux, ces deux enfants que j'ai mis au monde, et la mort. En tout cas, j'essaye de l'être. Donc ça, c'est la première chose. Une espèce de grande angoisse et culpabilité vous étreint. Dès que l'enfant est né, je ne sais pas pour les autres mères, mais pour moi, ça a été comme ça, pour mes deux enfants, et à charge égale, à chaque naissance, on ne s'habitue pas, je veux dire, une espèce de culpabilité de me dire « Oh là 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 là, et ben maintenant, il va mourir. » Alors après, c'est une bagarre sans fond pour qu'il meure après vous. Et comme on veut pas tout de suite soi-même mourir, sinon on se tuerait à la naissance, on confierait l'enfant à quelqu'un qui l'a pas eu, ce serait un système éducatif ça. Et non, blague à part, c'est quand même cette chose de culpabilité. Et je trouve que les hommes la ressentent un petit peu moins, mais je suis pas certaine que ce soit pas une idée, un cliché que je mets là en avant. J'ai l'impression que le fait de les avoir dans le ventre, par exemple, ça tissue. Est-ce que c'est ce cordon ombilical? Je sais pas. Mais j'ai quand même eu l'impression d'une espèce de chose de femelle qui est arrivée, en plus, qui me trouble. C'est une chose assez étrangère. Bien sûr, c'est agréable d'être femelle dans le désir, par exemple, ou dans la séduction, etc. Mais assez moins dans la maternité, si vous voulez, parce que c'est très animal. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout fréquenté, nous, les sapiens, quand même, nés en 1967. Les autres, à mon avis, du temps des mammouths, ça devait moins rigoler. Mais on dit qu'il n'y a pas d'instinct maternel. Moi, j'ai été surprise par le fait d'en avoir. Je m'y attendais pas du tout. Donc, par instinct maternel, je dis par exemple, quand quelqu'un est tout petit, parce qu'après, quand les gens parlent, ils vous disent ce dont ils ont besoin, et très clairement. Hein. Mais quand ils sont tout petits, par exemple, quand ils parlent pas encore, on ne sait pas ce dont ils ont besoin. Donc, par exemple, ça doit venir des longues famines qui ont décimé l'espèce humaine, mais la plupart des gens, quand un bébé pleure, vous disent « il a faim ». Eh bien non, il n'a pas que faim. Bien sûr, il a faim, parfois. Disons que 8 fois sur 10, il a faim. Mais il y a 2 fois sur 10 où il a absolument pas faim. Il a chaud, il a froid, il a le blues, il est seul. Il se demande pourquoi, parce que il a la gravité. Tout d'un coup, cette chose où il peut pas bouger, on est quand même très très démunis hein, comme mammifères. Tous les autres mammifères peuvent se mettre debout, suivre leur mère, suivre leur troupeau, etc. Nous, non, on est à la merci d'autrui, notamment de nos mères. Voilà, toute cette omnipuissance et toute cette bizarre chose. Et moi, je ressentais des choses, par exemple, comme une petite voix au fond de moi-même qui me disait « Non, il a chaud. Il a pas faim. Il a chaud. Tiens, déshabille-le. Il a chaud. Il a envie. Il étouffe avec sa grenouillère. Il a chaud. » Et à chaque fois que j'écoutais ces drôles d'idées qui me venaient dans la tête, elles étaient justes. Donc, j'en ai déduit que j'avais un instinct maternel. Et que je devais pas tellement écouter tout le temps ce qu'on disait autour de moi, et que je devais faire plus attention à ces espèces de bizarres idées qui m'arrivaient de je ne sais où. J'étais surprise de découvrir que j'avais un vague instinct maternel. Ça dure pas très longtemps, mais enfin, on a l'impression que c'est une chose corporelle qui vous dépasse complètement, qui est reliée aux hormones, à la prolactine, et ça n'enlève rien de la culpabilité que l'on ressent avoir mis quelqu'un au monde.
J'arrive à toi. Est-ce que c'est une de vos chansons les plus autobiographiques? Et quelles sont vos chansons les plus autobiographiques? Est-ce que celle-là, déjà, qui pour moi est une de vos plus belles chansons?
Merci.
Et une de vos chansons les plus autobiographiques?
Elle est très autobiographique. Elle est écrite vraiment dans un mouvement.
Est-ce que vous pouvez nous la raconter un peu pour ceux
ouais.
qui...
Elle est écrite, je sais qu'elle est écrite ici, dans ce bureau, le soir. Et je me souviens de l'avoir écrite très très spontanément. C'est une chanson d'amoureuse. Et c'est une chanson d'amoureuse, pas de jeune amoureuse. C'est une chanson d'une femme. Et je l'ai écrite, mais comme toutes les chansons très très personnelles, curieusement, il y a comme un espace entre soi et la chanson. C'est-à-dire qu'en fait, une bonne chanson personnelle, c'est une chanson qui ne se reconnaît plus comme étant personnel, et dans laquelle toutes les phrases que j'ai dit, que j'ai écrites, pourraient être les vôtres. C'est ça, une chanson. Le métier d'une chanson, c'est de faire ça, un petit peu. C'est-à-dire, c'est de partir d'un endroit incroyablement personnel et d'arriver à un endroit quand même général, quoi, qui nous concerne tous, ou que l'on espère tous, ou dans le cas de « J'arrive à toi », c'est comme quelqu'un m'a dit, vous voyez, c'est le même genre de chanson, c'est-à-dire que si on creuse un peu, est-ce que je suis vraiment arrivée à lui? Est-ce que c'est lui qui est celui? Est-ce qu'on arrive tous à quelqu'un? Est-ce qu'on a quelqu'un qui nous attend? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour chacun? Est-ce que non? Est-ce que non, c'est juste l'occasion qui fait le larron, en quelque sorte? Eh bien, quelqu'un m'a dit, c'est pareil, est-ce que ce quelqu'un existe? Est-ce que la seule chose qui compte, c'est pas d'imaginer que quelqu'un vous aime encore? Est-ce que ça compte pas plus que d'avoir vraiment quelqu'un qui vous aime encore au fond? Et j'arrive à toi, c'est pareil. Est-ce que ce qui compte davantage, ce n'est pas d'espérer quelqu'un et d'avoir la sensation d'avoir trouvé quelqu'un plutôt que le fait même d'avoir trouvé quelqu'un? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas très pragmatique une chanson?
Est-ce qu'il y a un moment de votre vie où vous êtes dit... Là, maintenant, je suis arrivée à avoir la vie que je rêvais d'avoir? Ou c'est une phrase que vous ne vous êtes jamais dite?
Non, je ne me suis jamais dite. Parfois, je suis stupéfaite par la vie familiale, par exemple. Parfois, quand je ressens de la chaleur grâce à la vie familiale, quand je rentre ici, quand je rentre et que tout d'un coup, je trouve cette chose de vie familiale, parfois, je me dis, mais c'est dingue, comment... J'ai réussi à faire cette chose-là qui, en plus, me plaisait pas particulièrement quand j'étais jeune. Je pensais être quelqu'un de... Je pensais que c'était une entrave. Et c'est vrai, c'est une entrave. C'est vrai, c'est une entrave.
Vous qui incarnez la liberté, en fait, vous ne placez pas la liberté si haut que ça.
Non, je place la sécurité plus haut que la liberté. J'ai lu un merveilleux papier que vous aviez fait avec cette jeune écrivaine...
Leïla Slimani.
Leïla Slimani, exactement. Et ça m'a frappée. Sa phrase, ça m'a frappée. La force de cette phrase, elle disait « La plupart des gens choisissent la sécurité plutôt que la liberté. » C'est vrai. Mais J'ai beaucoup aimé la phrase et j'ai senti, peut-être je me trompe complètement, une immense angoisse derrière cette phrase. Parce qu'elle disait qu'elle avait choisi la liberté, moi non. Mais moi j'aime la sécurité, j'aime la chaleur, j'aime être à l'intérieur, j'aime être au chaud, j'aime cette affaire de gens autour, desquels je m'occupe un peu, pas tant que ça, hein. C'est pas non plus que je dévoue ma vie aux autres, hein. Mais quand même j'aime bien qu'il y ait des autres, et sous cette forme-là, cette forme très classique, très bourgeoise. Peut-être aussi que c'est quelque chose que j'ai un peu eu et qui m'a un peu manqué, j'avais quand même beaucoup ma grand-mère et ma sœur, mais sinon c'était un peu le désert, quoi.
Et est-ce que c'est difficile quand même de vivre dans une famille recomposée, de faire vivre des familles recomposées ?
Non, ce que je trouve difficile, c'est les hostilités, le conflit. Ça, je trouve ça difficile. Mais tisser de l'amitié dans ces nouvelles familles qui sont pleines d'enfants, qui naissent avant, qui naissent après, qui font eux-mêmes des enfants, bon, ça devient grande confusion, charmante et joyeuse confusion. Non. Tisser du lien dans toutes ces familles et devenir une seule famille, ça me plaît bien. J'ai l'impression qu'on est un peu tous dans la grotte et qu'on peut tous se tenir un peu chaud. J'ai l'impression que c'est un vieux réflexe quand même, ancien.
Est-ce que vous pourriez écrire un livre ? Je sais que vous êtes très sollicité par les éditeurs. Est-ce que ça peut être une de vos envies dans le futur, d'écrire un livre ?
J'aimerais bien écrire un livre. J'aimerais bien aussi vraiment écrire un livre. Comme le fait mon mari, je dis ça parce qu'il n'est pas écrivain, il n'est pas journaliste et il écrit des livres. C'est drôle, il en sort plus rincé que d'un meeting difficile. C'est incroyable, la fatigue, la passion que ça draine d'écrire un livre. J'ai jamais écrit de livre, j'ai écrit des chansons, c'est une forme merveilleuse. Pour moi, j'ai écrit des lettres. Je vais d'abord peut-être publier un livre de lettres que j'ai écrit et que j'ai envoyé.
C'est des lettres que vous avez envoyées
à des gens qui existent, pour leur dire mon sentiment. Parfois un sentiment très positif, parfois un sentiment très négatif. Et peut-être je vais commencer par publier ces lettres. C'est vrai que la prose m'est assez étrangère, même si la poésie parfois est en prose. Moi, je suis une grande adepte de la rime. Et ma forme, c'est la rime. Après, je peux vous écrire une lettre, voyez-vous, et je vous l'écrirai en prose, je suis pas folle. J'arrive à écrire une lettre. Mais ouais, ça me coûte un peu, même une lettre de condoléance, ça me coûte beaucoup d'énergie. Je comprends ce que veut dire mon mec quand il dit « oh là là, ça m'a drainé ». Je dis « mais attends, tu peux faire des discours devant 20 000 personnes, ça te draine pas et ça te draine ». Il dit « oui, c'est incomparable, parce qu'en fait, les 20 000 personnes vous donnent une énergie, tandis que quand on écrit, on est seul ». Même deux personnes vous donnent de l'énergie. Il y a cette solitude. Donc, j'ai jamais écrit de livre. J'aimerais écrire un livre. Mais je ne veux pas le faire comme les gens qui écrivent pas. C'est-à-dire avec une personne à mes côtés qui est une belle plume et qui m'écrit à ma place. Parce que c'est écrire qui compte. Sinon, on n'écrit pas de livre. Sinon, on enregistre des choses comme on le fait là, par exemple. Et c'est merveilleux de parler de soi à l'oral. Et donc c'est amplement suffisant si on veut raconter sa vie. Mais écrire un livre, c'est l'écrire.
Dans Quelqu'un m'a dit, votre premier album, il y a une chanson qui s'appelle La dernière minute. Vous écrivez « Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute. Tout entière, tout à fait, dans toutes ses déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande. Je veux qu'on m'en rajoute 60 petites secondes pour ma dernière minute. » Est-ce que vous pensez que vous pourriez dire ça ?
C'est la chanson anti-suicide, hein. C'est la chanson où on demande encore un peu.
Exactement, encore un peu de vie.
Encore un peu de vie, encore un peu de vie. Écoutez, si je suis pas pliée en deux de douleur, c'est tout à fait possible parce qu'on peut mourir tranquille ou on peut mourir dans l'agonie. J'ai vu les deux, de près. Si on n'est pas dans l'agonie, si on n'est pas dans la maladie, si on n'est pas dans la douleur physique ou morale, oui, encore une minute. Après, si on n'est pas dans l'agonie, si on n'est pas dans la maladie, en général, poum, on meurt d'un coup. Ah, mon rêve, c'est de dormir. Tiens, bon lapsus, c'est de mourir en dormant, par exemple, ou mourir en riant. Il y a des belles morts, hein. Il y a des gens qui meurent tout d'un coup, hein. Ça fait un choc aux gens autour, mais pour eux, c'est merveilleux. Mon ami Asdin Alaya, il est mort. Il n'a pas eu un jour de maladie. Il n'a pas eu un jour d'agonie, hein. Je ne parle pas de ses détresses intimes, etc. Mais il n'a pas eu de maladie. Il avait 83 ou 85 ans, Asdine. Quelque chose s'est arrêté dans son corps. Il était dans l'escalier, il est tombé, il est mort.
Vous riez beaucoup. C'est important, le rire.
C'est une bonne coutume, quand même. C'est une bonne expression. C'est une belle chose, le rire. Et les larmes aussi, je trouve que c'est assez merveilleux de pouvoir pleurer. C'est gênant. Hein. J'ai pleuré en vous parlant d'une chanson qui faisait pleurer. C'est gênant. Ça paraît complaisant. Hein. Mais c'est agréable de pleurer. C'est agréable d'être un être d'émotion.
Est-ce que vous avez un rosebud ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un vêtement, un geste, un objet qui vous trahit, qui vous dévoile, qui vous contient ? Et si oui, lequel ?
C'est beau, qui vous trahit, qui vous dévoile, qui vous contient. C'est incroyable. C'est beaucoup de choses, quand même.
Est-ce qu'il existe ce geste, cet objet, ce vêtement, peut-être même ce moment ?
Ouais, moi je crois que j'ai des sentiments qui me trahissent, comme si c'était le contraire de tout ce que j'essaye d'être. Par exemple, on parlait toutes les deux dans ces avois nues de politesse. Vous m'avez dit, mais est-ce que vous n'êtes pas
encombrée
par cette politesse? Est-ce que c'est pas un peu trop toute cette politesse? Mais en fait, j'ai un tempérament impulsif, moi. Donc, par exemple, mes impulsions, mes colères, elles trahissent le feu qui est en moi et qui est pas du tout éteint malgré toute la politesse. Donc c'est un peu un refoulement en quelque sorte. C'est pour ça que c'est troublant de parler de ça, de dire mes colères, c'est mon rosebud peut-être.
Merci beaucoup Carla. Merci. Bruni.
Merci à vous, c'était un plaisir.
De cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Carla Bruni. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son Romain Luquiens, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.